le 6-9, Marion Lourd, Ali Badou, sur France Inter.
Et notre invité ce matin est philosophe, directeur de recherche au CNRS, professeur à l'ENS, l'un des plus grands spécialistes de la violence. Ce mal qui envahit notre société, les actualités récentes en sont la preuve, de la guerre au Proche-Orient, au féminicide, des attaques entre adolescents, aux violences économiques et sociales. Bonjour Marc Crépon.
Bonjour.
L'actualité semble en effet en être remplie hein, ces jours-ci de la violence. Il y a par exemple la mort de cet adolescent de 15 ans tué alors qu'il essayait d'arrêter une bagarre à Romans-sur-Isère. Il y a Chemseddine en Essonne, cet adolescent passé à tabac et tué près de son collège à qui une marche blanche a rendu hommage hier. Pourquoi est-ce qu'on a comme ça le sentiment d'être entouré par la violence, on a le sentiment qu'elle est partout.
Oui, c'est vrai. Il suffit d'écouter les informations le matin et on a le sentiment effectivement que sur toutes les scènes, en fait, la violence se confond avec le réel. Je pense d'abord que nous avons une plus grande sensibilité à la violence, c'est-à-dire nos seuils de tolérance se sont réellement déplacés. Il y a des violences avant que nous ne savions pas identifier, que nous ne savions pas nommer comme il convient de les nommer.
Lesquelles, par exemple ?
Ben là, tout à l'heure, vous faisiez allusion. Je crois aussi aux violences féministes, aux féminicides, aux violences intrafamiliales, aux violences sexuelles et sexistes. Pendant très longtemps, la société avait tout un tas de mots pour les édulcorer ou pour ne pas les appeler. Et je crois que
crime passionnel, par exemple.
Voilà. Et je crois dans le fond que notre sensibilité à la violence se modifie lorsque nous sommes capables de trouver la juste dénomination. Là, pour les violences qui, aujourd'hui, retiennent toute notre attention à la porte des lycées, dans la cité. À la porte des collèges. Il y a deux mots qu'on utilisait beaucoup et dont on voit bien qu'ils ne sont pas à la mesure du degré de violence. Le mot d'embrouille.
Ah oui.
Et le mot de risque. C'est des mots très justes. Je veux pas. C'est des mots qui ont leur part de justesse.
Embrouiller.
Oui, s'embrouiller, voilà.
Et quel autre mot vous disiez ?
Rix, qui est un vieux mot, mais qu'on a encore beaucoup utilisé. Mais là, on voit bien que c'est peut-être autre chose, que ces mots ne sont pas à la mesure du phénomène. Pourquoi ? Parce que ce à quoi nous sommes confrontés depuis maintenant un certain temps, c'est beaucoup plus que ça. Et les termes de rix et d'embrouille ne permettent pas de le décrire. Ce à quoi nous sommes confrontés, c'est sans doute deux choses. C'est d'abord une modification du rapport à la violence de toute une partie de notre société. C'est-à-dire que d'un côté, nous avons une très grande sensibilité à la violence, mais d'un autre côté, effectivement, le recours à la violence, le passage à l'acte violent, se systématise et se multiplie. Et ça, c'est grave parce que ça veut dire deux choses. Ça veut dire que un certain nombre de médiations qui, jusqu'à maintenant, faisait qu'on considérait que, dans le fond, on pouvait régler les conflits autrement que par la violence, le langage des tiers, des médiateurs, ne fonctionne plus. Et puis, l'autre chose qui, moi, me frappe beaucoup à tous les niveaux, en réalité, dans la société, c'est l'impression qu'ont beaucoup de nos concitoyens, et je dis bien toute génération confondue et toute classe confondue, que, dans le fond, c'est à eux de se faire justice eux-mêmes. C'est à eux de se faire justice. Et ça, c'est très grave, parce que dans une société, il est convenu, en général, que ça n'est pas aux individus de se faire justice eux-mêmes et de se venger. Et donc, quand quelque chose de cet ordre a tendance à se systématiser, c'est une vraie rupture du pacte social. La société repose sur la conviction que ce n'est pas aux individus de se faire justice eux-mêmes.
Il y a une question, Marc Crépon, qui est importante et qu'on aborde très peu. On voit la violence du point de vue des victimes et c'est évidemment légitime. Et l'expérience, elle est le point de départ de la réflexion sur les types de violence. Vous vous interrogez sur les auteurs, sur ceux qui commettent les actes violents. Qu'est-ce que on peut comprendre dans le plaisir qu'éprouvent certains de commettre de la violence?
Alors, c'est vrai que la méthode qui est devenue la mienne pour traiter des phénomènes de violence, c'est d'abord de s'interroger sur les effets de la violence. Et évidemment, quand on interroge les effets, qui sont très importants, il faut comprendre vraiment ce que la violence fait au corps et aux esprits qu'elle atteint, qu'elle touche. On pense d'abord à la violence, à ses effets sur les victimes. Mais évidemment qu'il faut aussi être capable d'intégrer les effets de la violence, ce qu'elle déchaîne, ce qu'elle provoque.
Le plaisir, éventuellement même la jouissance, alors, mais c'est insupportable,
le plaisir,
c'est extrêmement
la jouissance...
difficile d'aborder ça, Marc Crépon.
Écoutez, ça fait 15 ans que je travaille sur la violence et je bute encore et toujours sur cette énigme irréductible. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose qui résiste dans l'analyse de la violence. Il y a quand même quelque chose qu'on peut dire, quand même. C'est que je crois que la société, les sociétés se construisent quand même sur un certain tabou du sang. Voilà. Et on peut même différencier, distinguer les sociétés selon le fonctionnement de ce tabou du sang. Et ce tabou du sang, évidemment que s'il est nécessaire, c'est parce que nous avons individuellement un rapport compliqué à ça. C'est-à-dire que, vous savez que c'est l'une des trois pulsions primitives qu'identifiait Freud,
oui,
il y avait l'inceste, le cannibalisme, et il y avait celle qui est très énigme, qu'il appelle le plaisir-désir de meurtre, qui a lien, évidemment, qui a trait à ce goût du sang. Ce goût du sang, on le découvre pas aujourd'hui. La fascination que pendant des siècles, les gens pouvaient avoir pour la peine de mort, pour les grands criminels, pour les grandes exécutions, montre que effectivement nous avons en nous quelque chose de compliqué avec cette passion du sang. Mais je crois qu'aujourd'hui nous pouvons dire que nous assistons, je n'aime pas beaucoup l'idée de désinhibition, etc. Je pense que c'est insuffisant, que ça dit pas suffisant, mais nous avons sans doute affaire à quelque chose comme la levée de ce tabou du sang, et ça c'est réellement inquiétant.
Marc Crépon, vous en parlez dans votre livre, on faisait aussi un peu la liste tout à l'heure, il y a énormément de types de violences différentes, d'ailleurs qui n'impliquent pas toujours du sang, parce qu'il peut y avoir aussi des violences économiques et sociales, il y a ces violences entre jeunes dont on parlait, il y a les violences domestiques, il y a les abus sexuels, vous parlez de la grève dans le livre, c'est intéressant, et vous en avez parlé aussi au sujet des agriculteurs. Si on donne une définition générique de tout ça, quel est le point commun de tout ça, en fait, c'est la rupture du lien?
Alors, voilà, je voudrais dire que ce qui permet justement de comprendre le dénominateur commun entre toutes les formes de violence, c'est l'analyse de leurs effets. Et je pense qu'il y a deux effets qui sont communs à toutes les formes de violence, qu'elles soient domestiques, qu'elles soient policières, qu'elles soient politiques, etc. C'est que si on admet que, dans le fond, l'existence est un tissu de relations, que ce qui nous définit chacun singulièrement, c'est l'ensemble des relations dont nous sommes constitués au fil de notre vie. Toutes ces relations, pour que la vie reste vivable, demandent... Alors, c'est des relations avec un espace, avec des êtres vivants et non vivants, avec des choses, des objets. Toutes ces relations demandent, pour que la vie reste vivable, un minimum de crédit, un minimum de confiance. La première chose que fait la violence, elle attaque ces relations. Elle généralise le discrédit. Mais c'est vraiment ce qui se passe en ce moment. Lorsque la cour de récréation n'est plus un espace sécurisé, lorsque les abords du collège ne sont plus un espace où on peut se mouvoir sans avoir la hantise d'être agressé ou que la violence surgisse, à ce moment-là, c'est le crédit qu'on y met qui est fragile. Et puis, puisque vous parliez des violences domestiques, bien évidemment, lorsque la violence fait irruption entre des parents et des enfants dans un foyer, entre un homme et une femme, c'est le crédit dont on a besoin pour pouvoir vivre ensemble qui se trouve immédiatement fragilisé. Le deuxième critère, qui est très important pour analyser un grand nombre de ces violences, c'est la réification.
Expliquez-nous.
Alors, la réification, c'est le fait qu'au moment où la violence vous tombe dessus, où vous en êtes la victime, elle vous réduit à un objet sur lequel s'applique une force brute. Voilà. Et qui est toujours abstraite. C'est-à-dire que elle vous réduit à une abstraction. Ce que vous êtes, infiniment, singulièrement, et ce que vous n'êtes pas, tout ça est réduit à néant. C'est vraiment ce qui se passe dans ces passages à l'acte extrême où on voit bien que il n'y a plus aucune considération pour la victime. C'est pour ça que le grand paradoxe de la violence, telle qu'elle se manifeste, c'est qu'en même temps, elle est très abstraite. Elle est très concrète dans ses manifestations, mais dans ceux qui l'exercent, je pense qu'ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils détruisent. Est-ce que ces jeunes qui ont tué Shemseddine savaient que, en le tuant, en le passant à tabac de cette façon-là, est-ce qu'ils savaient toutes les conséquences que ça allait avoir sur leur vie, sur la vie de leur famille, sur la vie de ce garçon qu'ils ont ôté,
de
sa propre famille, de ses camarades, etc. C'est-à-dire que nous devons toujours, dans l'analyse de la violence, en revenir à ses effets, ce qu'elle détruit. Et je pense que ça doit faire l'objet d'une éducation dès le plus jeune âge.
Nous sommes en plein Festival du Livre à Paris. Vous y étiez hier, Marc Crépon. En quoi est-ce que la littérature peut être un recours précieux, peut-être nécessaire, pour comprendre la violence, pour comprendre justement ce qui est inexplicable dans ce qu'elle a de plus singulier? Vous citez régulièrement des auteurs comme Orwell, comme Bulgakov, Grossman, et la violence est toujours une expérience singulière. Qu'est-ce que les romans permettent de restituer que la sociologie ou que les statistiques ne permettent pas de comprendre?
Alors, on a besoin évidemment des sciences humaines pour toutes les analyses qu'elles nous proposent de la violence, mais évidemment le revers des sciences humaines, c'est que ce qui nous manque chaque fois, c'est précisément cette expérience singulière de la violence, précisément ce qu'elle fait au corps et aux esprits qu'elle frappe et qu'elle détruit.
Oui, mais vous savez que certains refusent l'idée de 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. Ils veulent parler de phénomènes collectifs et ce n'est pas en additionnant les faits divers qu'on comprend un phénomène de société.
Parler de 1 plus 1 plus 1, c'est pas additionner les faits divers. Les deux sont nécessaires. Il faut bien sûr, d'abord j'aime pas tellement le terme de faits divers, je préfère parler de drame. Le fait n'est divers que pour celui qui le regarde de loin et avec
distance. C'est ce que
distance.
Vous écrivez.
Voilà. On a besoin des deux. On a besoin, bien sûr, de comprendre le phénomène comme un phénomène collectif. On a besoin de comprendre ce qui arrive à notre société. Mais on a aussi besoin de se rappeler que ce que la violence détruit, c'est jamais un ensemble, c'est jamais une masse. C'est toujours, effectivement, une addition de singularité. La preuve la plus vraie de ce que je dis, là, c'est que, dans le fond, la stratégie des systèmes totalitaires, des systèmes de terreur, c'est toujours d'effacer les singularités. C'est toujours, dans le fond, de les confondre dans une masse anonyme.
Marc Crépon, philosophe et auteur de ces 7 leçons sur la violence, tout juste paru chez Odile Jacob. Merci beaucoup, Marc Crépon, d'être venu sur France Inter.